la moindre des choses. Bon, je m'appelle Michel Galliot. Je me présente en tant que membre du collectif, hein, puisque c'est peut-être pas la peine d'avoir d'autres casquettes pour l'instant. C'est surtout ça que je veux mettre en avant. Et puis, avec une certaine compétence en climatologie, puisque c'était mon métier. Et donc, c'est un sujet que je connais bien. Alors, pour vous présenter le contexte d'actualité, hein, puisque il y a quelques jours seulement, encore, on avait la publication de la synthèse du rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, et qui, dans sa synthèse, nous fait le constat, hein, que la Terre se réchauffe, un constat qui est maintenant partagé, presque 1 degré de gagné en 130 ans, hein, on est à 0,85, et ça augmente à chaque fois, puisque il y a quelques, dans le dernier rapport, on était à 0,78, ben, on a gagné 7 dixièmes en 6 ans. Les océans se réchauffent aussi, sachant que les océans, ce sont eux qui absorbent 92% de la chaleur supplémentaire liée aux gaz à effet de serre, 5% pour l'atmosphère, 3% pour la glace qui fond. À côté de ça, la mer monte aussi. La mer monte est montée de 19 cm en un siècle. 19 cm, ça fait 1,9 mm par an. Mais on s'aperçoit que depuis les 20 dernières années, elle monte à un rythme de 3,2 mm par an. La banquise et les glaciers terrestres, et les calottes polaires, en particulier celle du Groenland, fondent. Donc ça, c'est un constat qui est maintenant partagé et visible par tous. La cause extrêmement probable, et quand les scientifiques disent extrêmement probable, ça veut dire qu'il n'y a pas de niveau, c'est le niveau maximum de leur certitude, ce sont les émissions de gaz à effet de serre des activités humaines. Parmi les gaz à effet de serre, on va focaliser souvent sur le CO2, qui est le gaz qui a le plus fort pouvoir de réchauffement parmi les gaz émis par les activités humaines. Et la teneur en CO2 de l'atmosphère était à peu près constante sur 1 million d'années, avec des petites variations. Là, on est passé quasiment, en un peu plus d'un siècle, de 280 à 400. Cette année, on a dépassé la valeur de 400 parties par million. Les scénarios dans le futur, c'est une augmentation de température qui va continuer, de l'ordre de plus de degrés si on arrive à contenir les émissions de gaz à effet de serre, mais si on ne peut pas les contenir, c'est 4,5 degrés. Et 4,5 degrés au niveau mondial, c'est 5 degrés ou un petit peu plus pour la France métropolitaine. La mer va continuer à monter avec une élévation qu'on projette jusqu'à 80 cm à la fin du siècle, sachant que pour ce qui est du niveau de la mer, ça ne va pas s'arrêter en 2100, ça va continuer. Les conséquences sur les activités humaines, sur l'agriculture, sur la biodiversité, sur les eaux littorales, bien entendu, vont être importantes, et par ricochet sur les populations, de nombreuses populations qui vont être touchées. Cette conséquence sera mondiale. Personne ne sera à l'abri, parce que si on a des zones qui risquent d'être, je dirais, bénéficiaires entre guillemets, ou qui n'auraient pas d'impact très important au niveau physique, au niveau de leur environnement, d'un point de vue économique, elles seront touchées, puisque l'économie mondiale sera désorganisée. On peut imaginer que si l'Inde, le Bangladesh connaissent des situations soit de sécheresse, soit d'inondation extrême, ça va totalement désorganiser l'économie de l'ensemble de la planète. Donc tout le monde va être concerné. Et parmi tout le monde, ceux qui seront le plus touchés sera certainement les populations les plus fragiles. Les pays en voie de développement, qui n'auront pas les moyens de faire face à ce défi. Mais même dans nos régions, les populations les plus fragiles seront celles qui seront le plus touchées, parce que ce sont elles qui souvent habitent déjà dans les zones les plus sensibles, les zones inondables. Qui va habiter dans une zone inondable? Eh bien, ce sont les gens qui ont moins de moyens, et donc ce sont souvent les plus fragiles. Donc ce sont eux qui vont payer le prix fort et qui n'auront pas les moyens de rebondir après un événement catastrophique, puisque le changement climatique se fera sentir en priorité par ces événements catastrophiques. Ces événements qui sont prévus d'être probablement, pour ce qui est des sécheresses, des canicules, plus intenses, plus fréquents et plus longs. Et pour ce qui est des tempêtes, des événements plus intenses. La fréquence, on en est moins sûr, mais ce qu'on est sûr, c'est que ce sera plus intense, puisqu'il y a plus la température monte, il y a plus d'énergie, plus de chaleur, donc des conséquences plus importantes. Alors il faut agir. Il faut agir et il ne faut pas seulement agir localement, il faut agir d'un point de vue mondial. Alors les actions, ça fait un certain nombre d'années que les pays se rencontrent pour faire essayer de trouver des solutions. C'est ce qu'on appelle les conférences des parties, hein, ou conférences des pays, hein, c'est la terminologie juridique, qui se réunissent tous les ans. Et il se trouve qu'en 2015, cette conférence de parties va se situer en France. Alors c'est important pour nous pour deux raisons. D'abord, c'est en France, donc on va être directement concerné. Et en plus, 2015, c'est une échéance qu'on s'est donnée, que les pays se sont donnés pour prendre des décisions concernant les limitations et le partage de ces limitations des émissions de gaz à effet de serre. L'objectif étant d'avoir réussir à avoir un accord international en 2015. Ça fait quelques années que ça dure. Hein. À Copenhague, en 2009, on avait beaucoup d'espoir, ça a loupé. En se donnant à notre objectif, en décalant encore quelques années, là, je crois qu'il faut cesser de repousser d'année en année les décisions. Il faut réussir à avoir un accord. Et c'est là où l'intervention des populations est importante pour pousser nos dirigeants à avoir le courage d'aller au-delà des particularismes de chaque pays, des individualismes, des intérêts, sachant que souvent les gouvernements défendent des intérêts plutôt des nantis, des lobbies. Et il faut qu'ils essayent d'aller au-delà, vraiment défendre l'intérêt des populations. L'intérêt des populations, c'est d'agir pour limiter ces émissions de gaz à effet de serre. Dernier élément du contexte, c'est que le changement climatique, c'est pas le seul problème qu'on va avoir devant nous. Parmi les autres problèmes, il va y avoir la raréfaction des ressources, aussi bien des ressources énergétiques que des ressources minières. L'impact à long terme de toutes les pollutions qui s'accumulent dans le sol, dans l'eau, dans les océans. L'augmentation de la population mondiale. Et tout ça va nous arriver dessus d'ici quelques dizaines d'années, aux alentours de 2050. Donc, on a atteint les limites de la planète. On va les atteindre. Il est obligatoire d'agir et de changer le mode de fonctionnement de nos sociétés. Le GIEC ne dit pas autre chose, le GIEC nous donne un message d'espoir. C'est possible, on a les moyens, on a les solutions. Bien entendu, ça veut dire qu'il faut agir dès maintenant et qu'il faut inventer vraiment un monde différent. Voilà le contexte dans lequel se situe l'action qui démarre maintenant. Et pour voir réellement ce qu'on voudrait faire, ce qui a été fait déjà à Bayonne et ce qui a été fait à Bayonne en 2013, dans d'autres villes en 2014, on a eu Lille, il y a eu Nantes, il y a eu Bordeaux, il y en a eu d'autres, puisque je crois qu'il y en avait 7 de prévus en 2014. Et en 2015, on est déjà au projet de 38, mais on en reparlera. Donc on va lancer le petit film.